ont apporté notre contribution à cette cause. Voilà, je vous remercie encore une fois, Président.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et Monsieur notre hôte, je vous en prie, j'aurai plaisir à ce que vous restiez à mes côtés. Mesdames et messieurs, nous avons tous ici en commun de nous sentir profondément impliqués, je le sais, par le titre donné à cette première rencontre de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Handicap, recherche et citoyenneté sonnent en quelque sorte comme une évidence. Aucun d'entre nous ne doute un seul instant que les personnes en situation de handicap soient des citoyens, mais nous avons conscience qu'ils connaissent des handicaps pour exprimer tous les attributs de cette citoyenneté. Et de ce fait, il convient de tout mettre en œuvre pour leur permettre d'être autant que cela est possible des citoyennes et des citoyens à part entière. L'autre mot-clé de ce titre est recherche. Il est également une évidence. Imaginez la médecine déjà triomphante qui vient d'utiliser la pénicilline en 1952 et qui se fixerait comme objectif simplement d'optimiser l'allocation des moyens, des outils, des méthodes disponibles, notamment des quelques milligrammes, grammes de pénicilline qui a pu être obtenu, qui ne se fixerait pas comme objectif de faire mieux encore, c'est-à-dire de développer des moyens, de trouver tout ce qui ne l'a pas encore été. Imaginez, dans le même ordre d'idées, à la même date, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, que sais-je, qui se serait arrêtée. Ce serait absurde. L'idée de progrès fondamental que nous devons certainement redéfinir, mais dont nous devons jamais nous déprendre, est celle qui indique que l'intelligence humaine, la technique humaine, l'économie, telle qu'elle est notamment engendrée par cette conjonction de l'intelligence et de la technique, doivent être mobilisées pour promouvoir de meilleures conditions d'épanouissement des femmes et des hommes, des citoyennes et des citoyens, notamment de ceux qui sont gênés dans l'expression de leur citoyenneté par un handicap. C'est-à-dire que si nous sommes persuadés de ce que on ne peut accepter, une société qui n'utilise pas ses moyens au sens large du terme, ses connaissances au sens large du terme, son pouvoir au sens large du terme, pour aider ceux qui en ont le plus besoin, n'est pas digne de se regarder dans la glace où se contemplent les sociétés. Elle n'est pas digne de demander aux citoyens les efforts qui leur sont demandés. Le progrès, pour ceux qui en ont le plus besoin, est une ardente nécessité. Notre idée, par conséquent, est que permettre aux citoyens en situation de handicap de profiter, de bénéficier de tout ce dont bénéficient, de tout ce dont profitent les autres femmes et les autres hommes, demande naturellement une très grande générosité, une très grande activité, une très grande efficacité. Et cela, les très nombreuses associations professionnelles spécialisées dans le monde du handicap, dans le travail des personnes en situation de handicap, tous ceux qui sont véritablement engagés, mènent leur tâche, leur mission, dans des conditions remarquables. Mais même si cela était encore mieux maîtrisé, même si l'allocation était encore plus justifiée, même si l'efficacité de l'utilisation des moyens alloués était encore meilleure, ça ne serait pas suffisant car une grande partie de ce que l'on peut probablement faire pour ces femmes et pour ces hommes n'a pas encore été trouvé. Ce serait coupable, vraiment coupable, de ne pas consacrer une part très importante de notre activité en faveur de nos concitoyens, de nos concitoyennes, handicapés par une maladie, par un déficit, une difficulté dans les conditions de sa vie, si ces moyens n'étaient pas par conséquent consacrés à débusquer les pistes qui permettra de faire mieux que ce que l'on peut faire aujourd'hui, malgré cette immense générosité qui est déjà déployée. Là est le rôle, là est la mission, là est la raison d'être de la FIRA. Mais pour qu'elle mène véritablement cette activité, cela n'est pas vulgaire ce que je dis, c'est tout à fait évident. Il faut que nous ayons plus de moyens que nous en avons. Nous le disons très clairement. Aujourd'hui, parce que ce que je vous dis avec mon enthousiasme, avec mes mots, j'en suis très profondément convaincu. Et nous arrivons à en convaincre les gens. Si bien que 150 d'entre eux, des équipes constituées, associant des chercheurs, des universités, des laboratoires, dans le monde entier et le monde du handicap, nous envoient des projets. Malheureusement, avec les moyens qui sont à notre disposition, nous ne pouvons, cela a été dit, nous ne pouvons en subventionner que 6 aujourd'hui. Certainement 10 à 20 sont d'une qualité telle qu'ils mériteraient d'être sélectionnés. S'ils l'étaient, les chances d'améliorer la situation demain des personnes en situation de handicap seraient accrues. Comment peut-on même imaginer ne pas saisir cette chance? Cette chance, nous voulons la saisir avec vous, mesdames et messieurs, et tel est le but de cette soirée.
Vous voyez, quand on s'assied, ça veut dire que ça va durer longtemps. J'espère que personne n'est pressé, on en a pour 4 ou 5 heures à peine ce soir.
Aucun problème. Hein.
Aucun... Oui, c'est juste... le traiteur dira peut-être pas la même chose. Non, peut-être d'un mot, Président, vous avez déjà dit beaucoup, mais vous avez beaucoup parlé de l'avenir et du présent. Est-ce qu'on peut-être on peut faire un petit retour dans le passé, que vous nous expliquiez quelle a été votre démarche en 2008-2009, quand vous décidez de fonder la FIRA et vers
en 2006, en réalité. En 2006, débarquent dans mon bureau 3 présidents et certains directeurs généraux. Je ne me rappelle plus exactement la composition de la délégation. Il était moteur ce jour-là, mais en même temps que ses collègues, le président de la FEGAPEI, le président de l'APAGE, le président de l'APF, et donc, j'ai dit, certains de leurs directeurs généraux. Et ils débutent d'entrée de jeu. Monsieur le professeur Kahn, je dirigeais un institut de recherche à l'époque. Monsieur le professeur Kahn, voilà ce que nous voulons faire. Nous considérons que nous avons des dizaines de milliers de salariés, des centaines de milliers de personnes en situation de handicap dont nous nous occupons. Certes, il n'y a jamais assez de moyens. Certes, l'organisation est toujours à perfectionner. Mais même si on fait cela, ça ne sera pas assez. Et nous croyons qu'il faut également, et que c'est notre rôle, que c'est notre mission que nous stimulions de la recherche pour imaginer ce qu'on fera mieux demain. Est-ce que vous êtes des nôtres? Alors moi, j'étais à l'époque membre du comité d'éthique, dont le président est ici présent, Jean-Claude Amaizen, et je suis sûr que sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, nous partageons le même sentiment. Quand vous êtes membre du comité d'éthique, vous avez une idée de ce que c'est que l'action bonne et l'action mauvaise. L'action bonne est celle qui est compatible avec, voire même qui promeut, l'amélioration des conditions de vie, d'épanouissement des personnes. L'autre est le critère principal de ce en quoi une action est bonne. Or, évidemment, faire en sorte que les personnes particulièrement en situation de difficulté, parce qu'elles connaissent le handicap, soient aidées, est le type même d'une action bonne. Par ailleurs, l'institut que je dirigeais était très activement impliqué dans le handicap, dans la recherche sur les handicaps génétiques, en particulier les différents types de retards mentaux, d'autisme, avec ou sans syndrome associé, les maladies génétiques. Nous avons travaillé dans le domaine de la thérapeutique, si bien que la réponse que je devais donner à cette interrogation était pour moi totalement évidente. Cela ne pouvait pas être non, ça a été oui.
Alors, ça a été oui. Gérard Andrec, dans son discours inaugural, a parlé de l'importance de la notion du statut. Alors, on sait que le statut ne fait pas tout. Il y a des entreprises de bonne volonté, des associations de malfaiteurs. Et vous, vous avez fait porter votre choix sur une fondation, puisque le F de FIRA, c'est pour fondation. Pourquoi ce choix? Et est-ce que vous pensez que ça garantissait une recherche de meilleure qualité, par exemple?
La structure qui permettait de promouvoir cette activité de recherche devait être trouvée. La forme fondation a beaucoup d'avantages. Et d'emblée, nous avons eu des partenaires, qui sont d'ailleurs indiqués dans le programme, des partenaires extrêmement importants, qui se sont réunis dans le conseil d'administration. Ce conseil d'administration, par conséquent, compte tenu des conditions de lancement de cette fondation, vous pouvez l'imaginer, comporte 4 fondateurs, outre le président qui venait d'accepter de présider. Par conséquent, en tant que telle, personnalité morale, l'APF, l'APAGE et la FEGAPI, d'emblée, nous avons eu également des partenaires, les amis de la Fondation, qui sont notamment engagés dans le domaine de l'économie solidaire, dans le domaine de l'éducation, la CASDEN, dans le domaine de la coopération des acteurs sur le terrain, le crédit coopératif, la MASSIF, dont le président nous a dit quelle était l'action, la MAIF et l'OCIRP. Au fil de notre activité, nous avons également développé de très étroits partenariats dans le domaine de l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi, en particulier l'ADAPT, dans le domaine très large du handicap, le CCAH, et nous sommes naturellement intéressés à développer ce partenariat, car nous le savons, le monde du handicap est d'une richesse, d'une profusion incroyable. Beaucoup de ces acteurs du handicap s'intéressent à différents niveaux, à la recherche, mais souvent relativement peu. Et dans le domaine de la recherche appliquée, on précisera peut-être le concept de recherche appliquée, il est difficile de faire la part de ce qu'est une action sociale en faveur des personnes en situation de handicap et ce qu'est une recherche. Et la FIRA se veut en quelque sorte l'institution de référence, essayant de porter très haut l'exigence d'une recherche qui est définie par l'excellence, l'évaluation, la reproductibilité et, parce qu'elle est appliquée, la possibilité d'utiliser ces résultats lorsque ce sont des succès, très rapidement, pour améliorer l'accès à leurs droits des citoyennes et des citoyens qui font face au handicap.
Là, je suis en train de réaliser que moi qui étais très fâché avec les sciences, si je vous avais eu comme prof, ça serait beaucoup mieux passé. Peut-être, puisque vous m'avez fait une aimable invite, est-ce que vous pouvez redonner une définition un petit peu précise de ce qu'est la recherche appliquée et ce qui est très importante pour la FIRA?
Ce que nous appelons ici recherche appliquée est une recherche, comme je viens de le dire, dont la caractéristique est d'essayer d'obtenir des résultats qui, appliqués dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, sont de nature à l'améliorer sans tarder. Pour vous donner un exemple, il y a une recherche extrêmement importante sur les conditions favorisant, malheureusement, l'émergence des handicaps, sur les causes génétiques, biologiques, neurologiques des handicaps, sur les mécanismes qui ouvrent la voie à telle ou telle possibilité thérapeutique. Mais lorsque cette recherche est un succès, on voit bien tout ce qu'il y a encore à faire pour que cela bénéficie directement aux personnes en situation de handicap, qui doit être fait. Il est certain que dans mon ancien métier qui était de trouver en particulier des gènes responsables de handicap génétique. Lorsque l'on avait trouvé ce gène, et donc lorsque l'on avait mieux compris le mécanisme, une nouvelle voie de possibilités thérapeutiques s'ouvrait. Il n'empêche que ces possibilités thérapeutiques étaient encore lointaines. Nous, compte tenu des sujets que nous poursuivons, lorsque la recherche, qui doit en être une, connaît des succès, eh bien, ces méthodes qui ont été confirmées peuvent être appliquées et alors elles doivent améliorer la situation des personnes en situation de handicap.
Peut-être encore un ou deux mots avant de passer à la table ronde sur les porteurs de projets. Je vais laisser de côté l'évaluation et l'excellence et Jean-Claude Amaizen et Eric Plaisance nous expliqueront comment est-ce que ça se matérialise dans un projet. Et évidemment, je laisserai Jean-François Quillien le présenter plus largement, mais vous avez tenu à ce que dès le départ, à côté de la FIRA, il y ait un centre de ressources qui soit créé. Pourquoi est-ce que cet outil manquant devait être porté par une structure telle que la vôtre ?
Ça a été une exigence, presque une condition que j'ai mise à accepter de présider cette fondation dont on avait envisagé en 2006 la création. En effet, en tant que, pendant 12 ans, membre du Comité consultatif national d'éthique, en tant que directeur d'un très gros institut de recherche dans le domaine du handicap, j'avais profondément conscience que dans le monde du handicap, ça n'est pas la générosité et l'ingéniosité qui manquent. Cela étant dit, malheureusement, je m'étais rendu compte que l'incroyable générosité, le formidable engagement d'équipe ne garantissait pas l'efficacité de ce qu'ils mettaient en œuvre. Hélas. Et que par conséquent, si nous voulions faire de la recherche, il était totalement exigible que tout ce qui nous était proposé, que tous les résultats obtenus, fussent évalués. Or, pour évaluer, l'évaluation commence par la comparaison. Elle commence par la comparaison avec tout ce qui a été envisagé, fait, essayé, dont l'inefficacité ou l'efficacité a été avérée. Et donc, j'ai dit oui, on fait ça, mais il faut qu'il y ait une banque de données aussi large que possible pour aider à monter les projets afin de ne pas réinventer la roue, et pour permettre aux évaluateurs d'évaluer ces projets. Le centre de ressources, initialement, c'est cela. Ça reste profondément cela. Sans lui, il n'y a pas de FIRA. Sans évaluation, il n'y a pas de recherche. Sans centre de ressources, l'évaluation est difficile, et par conséquent, la FIRA n'existe pas. Maintenant, le centre de ressources, comme il se développe rapidement, s'est ouvert à d'autres ambitions, qui est d'être un peu le lieu où se rencontre cette profusion du monde du handicap.
François Quillien, vous voyez un peu la responsabilité qui est la vôtre à la tête du lieu où se rencontrent les gens du handicap. On verra avec vous si dans une heure, l'ensemble des prises de parole, une heure et demie, vous ont donné pleinement satisfaction. J'espère que oui. Mais il y a quelques...
Ce qui donnera encore plus satisfaction, c'est qu'on ait d'autres partenaires.
Mais justement, j'y venais, vous voyez. Comme ça, tout va bien.
Non, vous voyez, moi, je suis un homme extrêmement pratique.
Mais, non, vous avez dit, ça n'est pas vulgaire. Et en l'occurrence, ça ne l'est pas. Mais imaginons que ce soir, la soirée se passe au-delà de vos espérances, ça peut arriver, et que vous vous retrouviez tout d'un coup avec...
Ça ne peut pas arriver, mes espérances sont immenses.
Ah. Bon. Mais si on décuplait le soutien à la FIRA, ce serait pas mal.
Ce serait très bien.
Au-delà de la somme, est-ce que vous pouvez nous montrer ce vers quoi on va, ce vers quoi on tend, quelles avancées majeures en matière de recherche on pourrait avoir s'il y avait un soutien plus franc ?
Vous savez, et on en parlera... En réalité, le progrès, il est exigeant et il exige de nouveaux progrès. Et il exige par conséquent que la FIRA existe. Si elle n'existait pas, il serait urgent de la fonder. Et je suis sûr que parmi les présidents de l'APAGE, de l'APF, de la FEGAPI aujourd'hui, il y en aurait de nombreux qui proposeraient de la fonder. En effet, quelques exemples. Heureusement, grâce au progrès, les personnes en situation de handicap vivent plus longtemps qu'auparavant. Mais alors qu'elles vieillissent, le handicap se modifie. Et dans un premier temps, le handicap se complète dans les handicaps moteurs moteurs cérébraux ou les différentes formes de paralysie, la rigidité, l'ankylose, parfois l'obésité, viennent compliquer le handicap. Le progrès est tel que, heureusement, certaines personnes en situation de handicap, aujourd'hui, vivent, et nous espérons que leur espérance de vie sera la même que les personnes ne faisant pas face au handicap, vivent beaucoup plus longtemps. Lorsque ces personnes sont accompagnées, eh bien, leurs accompagnateurs deviennent vieux et disparaissent. Et eux sont toujours là. Et il ne s'agit pas d'ajouter la difficulté à la difficulté, d'aggraver, en quelque sorte, faire de ce progrès un malheur. Le progrès doit être toujours une perspective. Et donc, à mesure que le progrès se développe, il y a de nouvelles exigences. Et il nous demande de ne jamais baisser les bras. Et puis, il y a encore tant à faire. On sait très bien que demain, il y aura des possibilités, notamment pour ce qui est des handicaps moteurs, des possibilités absolument extraordinaires. Mais il faut mobiliser les chercheurs. Il faut faire en sorte que le transfert soit le plus rapide possible à la réalité des conditions vécues par les personnes. Donc, vous voyez, le champ est immense.
Écoutez, on verra d'ici une heure et demie si on a bien progressé. Et puis, vous reviendrez évidemment nous faire un petit discours de clôture, j'espère.
Écoutez, si vous me demandez, je le ferai sûrement.
Je vous le demande très poliment. Si vous restez avec nous au premier rang, tout ira bien. Merci beaucoup, Président.